Bonsoir. Une série d'ordonnances signées par le président de la République portant avancement en grade et mise à la retraite au sein des FRDC ont été rendues publiques samedi dernier à la télévision nationale congolaise. Au terme de ces ordonnances, le lieutenant général Célestin Mbala Moussensé est nommé nouveau chef d'état-major général des FRDC en remplacement du général Didier Toumba. Quelle lecture faire de cette nouvelle mise en place au sein des FRDC? C'est la question au débat ce soir et pour en parler, nous recevons Mohamed Boulé, député national et membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, général à la retraite mais également ancien vice-ministre de la défense. Mohamed Boulé, bonsoir.
Bonsoir, je voudrais ajouter en plus que je suis auditeur et finaliste de la première session spéciale au Collège des hautes études de stratégie et de défense.
Merci pour ces précisions. Clovis Kada, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de la coordination nationale du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de la justice. Et enfin, Timothée Chaombo Choucha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Timothée Chaombo Choucha, bonsoir.
Bonsoir, cher ami.
À tous, bienvenue dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'armée de la République démocratique du Congo a désormais un nouveau chef d'état-major depuis le week-end dernier, et cela avec la publication des ordonnances présidentielles lues samedi dernier à la télévision nationale. C'est ainsi que le lieutenant-général Célestin Mbala Moussensé remplace le général Didier Etoumba à la tête des FRDC. Les détails de ces restructurations au sein de l'armée de la République démocratique du Congo, avec vous, Honoré Missenga.
Le lieutenant-général Célestin Mbala Moussensé est le nouveau chef d'état-major général au terme de cette restructuration. Il remplace le général Didier Etoumba, qui a occupé ce poste pendant près de 10 ans. Le général Etoumba est envoyé à la retraite, mais il reste dans l'entourage du chef de l'État dont il est désormais conseiller militaire, en remplacement du général François Olenga. Celui-ci reste lui aussi dans le cabinet présidentiel comme chargé des missions. Autre promotion, c'est celle du général Gabriel Amissi comme chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et du renseignement. Le général John Numbi signe également son retour aux affaires comme inspecteur général des FRDC, alors que le général Denis Kaloumé, récemment nommé ambassadeur en Russie, va lui aussi à la retraite. Enfin, dans cette série d'ordonnances présidentielles, Joseph Kabila élève au grade des généraux à titre posthume d'autres officiers supérieurs décédés.
Mohamed Boulé, député national et membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, général à la retraite, mais également ancien vice-ministre de la défense. Tout à l'heure, à la présentation, vous avez complété vos autres qualifications. Avec toutes ces casquettes qui sont les vôtres, quelle analyse vous faites de ces mises en place dont nous avons parlé tout à l'heure?
Merci beaucoup, c'est très simple. Vous savez que il y a eu, pour la réforme des forces armées, une loi organique portant restructuration, réforme des forces armées, qui a donné certainement des structures pour la mise en œuvre, et que dans ce cadre-là, nous sommes dans des processus pour mettre en pratique cela. Et que les nominations, c'est quelque chose d'ordinaire, qui doivent intervenir tous les ans dans les forces armées, que ce soit chez nous, en République démocratique du Congo, et dans toutes les armées du monde. Il en est de même pour la mise à la retraite, parce que lorsqu'on est atteint par la limite d'âge qui est fixée dans les statuts ayant complété la loi organique portant organisation et fonctionnement des forces armées, et c'est tout à fait une sortie honorable. Et en plus de cela, il faut reconnaître que la retraite au sens de l'article 184 du statut des militaires des forces armées, c'est un droit. Ce n'est pas une punition, c'est une bonne sortie par la grande porte. Et cela, je dois ici, à travers ces micros, féliciter tous les officiers généraux qui ont été retraités, Et bien entendu, il y a d'autres aussi pour les reclassements et réinsertions ont connu de nouvelles affectations dans le cadre des fonctions d'État, des charges d'État, pour servir une fois de plus sous une autre casquette, la République. Et donc là, c'est une bonne chose pour ceux qui ont pris la retraite parce qu'ils changent de statut. Lorsqu'on est sous les drapeaux, on est apolitique. Et maintenant, ils deviennent politiques. Et donc, ils jouissent, ils recouvrent alors leurs qualités dans les domaines. S'ils ont des prétentions, ils peuvent le faire. Pour les nouveaux, c'est aussi les rajeunissements dans les fonctions. Le général d'armée Toumba, que je félicite, a fait la longue durée pour ses charges avec tout ce qu'il a fait. Il a été au service de la nation, il a rendu, il a fait ce qu'il a pu faire et il en mérite bien un petit repos. Un repos dans l'exercice de ses fonctions et peut-être aussi prendre d'autres nouvelles fonctions, tout comme le général Olenga et le nouveau à qui on va passer le témoin. Et donc, si nous pensons bien au sens de cette loi portant statut des forces armées, ce seront les premiers bénéficiaires qui vont certainement bénéficier des avantages accordés pour les officiers, les sous-officiers qui sont éligibles à la retraite. Donc, ce n'est pas une punition.
Alors, si je vous ai bien suivi, vous considérez plutôt l'invitation du général Olenga et du général Etumba à venir travailler aux côtés du chef de l'État comme étant les effets de la réforme dont vous parliez tantôt.
Je ne dis pas ça parce qu'ils ne sont plus actifs dans les forces armées. Le chef de l'État a la discrétion de se choisir des collaborateurs pour venir étoffer l'état-major dont il a droit parce que cela aussi est fixé par des actes réglementaires, des ordonnances qui fixent qu'il faut un état-major militaire donc auprès du chef de l'État et aussi nommer, par exemple, un conseiller chargé des missions militaires auprès de la présidence de la République qui est une institution qui jouisse donc d'une structuration spécifique pour lui permettre d'être en mesure de remplir ses fonctions comme président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise.
Mais Mohamed Boulé, un poste de conseiller n'a rien de particulièrement politique. Pourquoi est-ce que des militaires encore en fonction peuvent ne pas être qualifiés pour être conseillers? Pourquoi donner comme une espèce de promotion à des retraités seulement?
Je vous dis ici, il doit s'agir de la discrétion du chef de l'État. Il peut nommer, d'ailleurs dans les statuts ici, et il est bien précisé dans certaines dispositions de ces articles-là qu'il faut aussi penser au reclassement, à la réinsertion, à la vie civile de ceux des officiers généraux qui ont eu à assumer des charges très importantes, de par leur qualification. Je me permets peut-être de vous dire ici que le général d'armée à la retraite, Etumba, a un cursus. Donc, il est issu de l'École royale militaire et il a fait une formation de qualité dans le cadre de ses études après l'Académie, l'École royale militaire. Et il a assumé des fonctions qui lui permettent d'être à l'aise comme conseiller. Imaginez, pendant la conférence nationale souveraine, il a eu à jouer un rôle très important de par les fonctions qu'il a eues. Et cela lui a valu l'appréciation du chef de l'État. Donc si aujourd'hui, à la retraite, donc en état là-bas, ce n'est pas une raison pour dire que pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas des militaires. Ces postes-là ne sont pas spécifiquement réservés qu'aux militaires actifs. Pourquoi pas aussi, dans le cadre de ces reclassements, des généraux Kaloumé et aussi un ancien de l'École royale militaire, il a un cursus éprouvé. Et j'ai travaillé à ses côtés autrefois comme son agent chargé des opérations et manœuvres militaires. Il a cette qualification-là. Et après l'école de guerre, comme brevet d'état-major, il a aussi suivi une formation de professeur pour les enseignements dans les écoles de guerre. Donc si aujourd'hui il est mis à la retraite, c'est pour être aussi à l'aise, pour s'accommoder à sa qualité
comme ambassadeur plénipotentiaire de notre pays et donc accrédité en Russie.
Alors, Clovis Kada, membre de la coordination nationale du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de la justice. Alors, général Mbala, chef d'état-major, a mis ici son adjoint, Olenga, chargé de mission du chef de l'État, et Tumba, plutôt, conseiller du chef de l'État, et Numbi, inspecteur général. Que pensez-vous de ces profils-là? Est-ce que c'est les plus compétents? N'y avait-il pas d'autres compétences qu'on aurait pu choisir à ses places?
Oui, je pense que les nominations qui sont intervenues, ce n'est pas une surprise. On s'attendait, on s'y attendait. Et pour nous, nous pensions que cela pouvait intervenir avant le 30 juin. Donc, c'était déjà prévu. Et dans le cadre des rajeunissements des forces armées, c'était tout à fait normal que les uns et les autres...
C'était prévu dans les laboratoires, mais pas encore sur la place publique.
Tout à fait. Les générales Célestin Mbala, il a déjà fait une expérience lorsqu'il était chef d'état-major de l'administration militaire. Et il mérite bien le poste qu'il occupe maintenant. Il y a les générales Amissi, Gabriel Amissi, qui a une expérience au niveau du commandement des forces terrestres. Il est passé par la première zone de défense et maintenant il est la deuxième personnalité des FRDC chargée des opérations et renseignements. La même chose avec le général John Numbi. Il a fait ses preuves à la force aérienne et puis la même chose comme inspecteur général de la police nationale congolaise, l'équivalent du commissaire général aujourd'hui. Donc tous ces gens-là méritent bien d'être nommés par les chefs de l'État.
Mais on imagine bien que dans la crème des officiers de la République démocratique du Congo, armés comme police, il y a d'autres compétences, non?
J'en viens. Tous ces gens-là, ils ont mérité. Parce que le chef de l'État, j'ai souvenance de son discours devant le Congrès, le 15 décembre 2012. Il avait insisté sur l'avènement d'une armée républicaine, professionnelle, respectueuse des droits de l'homme, etc., etc. Donc je crois que c'est entre autres dans ces soucis-là que le chef de l'État a nommé ces gens-là pour essayer un peu de rajeunir et donner. Pour nous qui travaillons dans le processus de la réforme du secteur de sécurité, et il n'y a pas que le poste qu'on voit là. Parce que pour nous, il y a aussi l'élan qu'on donne au niveau du service d'éducation civique et patriotique et d'action sociale, CECAS, et les renforcements du CIFA, service de communication et d'information des forces armées. Mais seulement, voilà, le devoir moral aurait voulu qu'il soit tenu compte du fait que les dossiers, si vous voulez, le dossier Tchébéa est encore pendant. Et le dossier Tchébéa, c'est le général Numbi, John Numbi a été nommément cité comme étant commanditaire de cet assassinat. Je n'ai pas souvenance d'un jugement dûment rendu qui dédouane le général John Numbi de toutes ces accusations. Donc, je reviens sur le devoir moral. Donc, la meilleure des choses, c'était de voir l'armée est composée des compétences. Il y a des généraux compétents, des officiers généraux supérieurs compétents. Les chefs d'État auraient dû puiser ailleurs pour donner quand même une bonne image de la République. Parce que vous vous souviendrez que le 6 juin, le général John Numbi a été élevé au rang de héros nationaux Lumumba et Kabila. À l'époque, le haut commissaire aux Nations Unies, M. Zeid Raad al-Hussein, avait même dit que c'était une insulte aux victimes. Donc, vous voyez, même si le dossier Tchébéa patauge au niveau de la République démocratique du Congo, mais au niveau de Dakar au Sénégal, la justice sénégalaise est sur le point de s'y pencher parce qu'il y a l'ex-officier de la police nationale congolaise, Paul Mouilamboué, qui vit en exil là-bas, qui est pratiquement un témoin à charge contre le général John Numbio. Nous pensons que c'est une bonne chose, mais il aurait été mieux. Ça aurait été une bonne chose de trouver d'autres compétences.
Alors, le cas Numbi n'est pas le seul qui fait jaser au sein de l'opinion. Je vais rappeler quelques affaires. Le général, l'actuel chef d'état-major lui-même est cité par des allégations dans l'affaire Bundu Dia Congo. Général Amissi dans le trafic d'armes. Le général Olenga et Numbi sont cités dans d'autres affaires, parmi lesquelles la complication du processus politique en République démocratique du Congo. Justement, vous y veniez. Est-ce que beaucoup d'observateurs estiment que le président de la République se complique tout seul la tâche en remettant en premier plan des personnes toutes très contestées et ayant des affaires non clarifiées au sein de l'opinion?
Tout à fait, parce que c'est l'image de la République qui en pâtit. C'est l'image de la République qui en pâtit. Et nous aimerions avoir des officiers généraux qui vont participer activement dans des rencontres internationales avec d'autres militaires et aller dans les académies à l'extérieur du pays. Mais quand nous avons des officiers qui sont frappés des mesures restrictives au niveau du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, par exemple. Et là, je ne sais pas, les officiers qu'on a nommés, c'est pour, passez-moi l'expression, une consommation interne.
Clovis Kadda, pour le président de la République, pourquoi utilise-t-il toujours, en fait c'est le constat, hein, pourquoi a-t-il toujours l'air d'utiliser les mêmes personnes? N'y a-t-il vraiment en République démocratique du Congo pas d'autres collaborateurs avec les mêmes qualifications, voire mieux? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à suspecter? Je ne dis pas que ça vient de moi, mais des commentaires qu'on entend, ça et là.
Non, je ne pense pas. L'honorable l'a bien dit, le pouvoir discrétionnaire. Si les chefs d'État pensent que ce sont ceux-là qui méritent bien d'être toujours à ses côtés, bon, nous prenons acte, mais nous pensons qu'il y a, avec les nominations qui viennent de tomber, il y a malheureusement beaucoup d'officiers généraux qui sont là, mais qui sont sans fonction.
Merci Clovis Kadda, nous reviendrons à vous tout à l'heure. Timothée Chaombo-Choucha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Que pensez-vous des protestations des défenseurs de droits de l'homme autour de certains promus par les ordonnances présidentielles, notamment le général John Numbi?
Merci, effectivement, ils ont raison, parce que même le dernier collaborateur a relevé le fait que beaucoup d'entre eux ont des problèmes, non seulement des sanctions au niveau de la communauté internationale, mais aussi cités dans différents domaines, dans différents dossiers sales, notamment trafic d'armes, assassinats, et puis entrave à la démocratie, détournement, hein, beaucoup d'autres choses dont on peut le reprocher. Et voilà, donc, nous avons l'impression que le chef de l'État est en train d'employer tout simplement des hommes de main, des gens impitoyables qui ont la gâchette facile face aux enjeux auxquels nous faisons face. Et donc, la RDC, ou peut-être l'armée, a une forme d'élite qui sont tout simplement des gens impitoyables, des gens qui sont criminels, parce qu'il n'y a pas que moi qui le dis, les faits sont là. Mais il faudrait, si vous me permettez, que je revienne sur quelques éléments qui ont concouru à ces chambardements. Il faut d'abord rappeler le contexte historique dans lequel le pays vit depuis plus de 30 ans environ. Vous vous rappelez, lorsque le président Mobutu était buté devant un problème de légitimité, et d'illégalité. Il a procédé à des nominations de gouvernement, réforme des institutions, nomination des chefs d'état-major généraux, au sein de l'armée de chambardement. Mais cela n'a pas pu sauver son régime, tout simplement, parce que le régime était gangréné, a atteint le cancer au niveau terminal, de la corruption, de la vie sociale qui était dégradante, d'une classe politique totalement à sa cause, des institutions totalement inféodées. Et il a fallu l'AFDL pour faire tomber le président Mobutu. Je reviens par rapport à un principe très important en matière de résolution des conflits et même en matière de régulation dans les institutions de l'État. L'armée est un instrument, l'armée a toujours été un instrument au service, un instrument public au service des bonnes politiques. Ainsi, vous voyez dans des pays, des grandes démocraties, où là où se trouvent les dirigeants qui comprennent les choses, la gravité des institutions, lorsqu'on confie à un acteur la direction de l'armée, la police ou toute autre institution, on lui demande des comptes. Ça veut dire qu'il a l'obligation des résultats parce qu'on met les moyens à sa disposition. Mais dans le cas des spectres de la RDC, les nominations, que ce soit au sein de l'armée, comme c'est le cas en examen aujourd'hui dans votre émission, mais dans d'autres institutions de l'État, c'est au service d'un individu. Vous verrez, je parie et vous me rappellerez à la prochaine émission un jour, vous verrez que ça ne va pas changer le social du Congo, du soldat congolais. Ça ne va pas changer dans la performance de l'armée. Nous avons plus de 20 coopérations militaires avec les États les plus puissants du monde. Mais nous n'arrivons pas à bout des petites rébellions qui sont fabriquées à gauche, à droite. On ne voit pas la performance des FARDC monter, sinon l'implication des Nations Unies pour épauler les forces nationales là où elles ont le droit régalien de lutter contre les incivils. Donc ça ne va rien changer. Regardez le social du Congolais. Je dis du soldat, quand on donne un petit poulet, les Mabessou, le 30 juin ou à la fin de l'année, carrément une insulte. Et donc, la nomination générale Mbala, et quelqu'un l'a rappelé tantôt, il a été à l'administration militaire. Il a été chargé de mission militaire du chef Kabila. Il a été le secrétaire militaire du président de la République. Il a été le chef d'état-major particulier du chef d'état, ça veut dire le chef de la maison militaire. Mais le social militaire a toujours empiré. Je vous donne une anecdote. Nous sommes en 2006. Je suis invité à la présidence de la République pour être reçu par le chef de l'État. À l'époque, directeur de cabinet, Léonard Chiokitombo. Je sors de l'audience. Un militaire de la garde républicaine me demande de l'argent de cigarette. Ben, je tourne vers le directeur de cabinet, je dis, mais c'est pas possible qu'un militaire commis à la résidence du chef de l'État, Gélem, qui demande à un invité du chef de l'État de la cigarette. Ces militaires-là ne vivent pas, ils sont dans des situations chaotiques. Et c'est pour ça que vous voyez, le 30 juin, on a reporté le défilé parce que le général Didier Toumba n'a pas su étouffer la grogne, le mécontentement qu'il y a au sein de l'armée. Et on l'a ramené à ce que moi j'ai toujours appelé le garage poli, lié aux côtés du chef de l'État, pour être mieux suivi, mieux contrôlé, comme le général Olenga, qui est en garage poli, mieux suivi, mieux contrôlé. Un dernier élément très important, et c'est par là que je termine. Dans quel contexte Joseph Kabila procède à la nomination? C'est dans un contexte qui ressemble à celui de Mobutu. Il est en crise de légitimité, il est en crise de légalité d'ici là et de toutes les institutions d'élection. Et face à un processus électoral qui va conduire inexorablement vers un chaos dans notre pays, dans la région des Grands Lacs, mais aussi l'Afrique centrale comme l'Afrique australe, le président Kabila met au-devant de la scène ses hommes de main. Parce qu'il se prépare, il suffit de voir son attitude, il est obutiste, il se prépare à des affrontements. Et donc, dans ce contexte-là, il doit mettre tout simplement des gens qui lui sont fidèles, qui ont aussi commis des problèmes dont il pourra en tout moment leur brandir les chantages pour dire soit que nous mourrons ensemble, soit que vous restez loyal et on continue le bateau. Voilà le tableau, le photogramme dans lequel on se trouve et dont j'estime qu'il n'y aura rien qui va changer. C'est encore une insulte au niveau de la mémoire de l'armée congolaise et des services de sécurité, mais qu'en même temps, le paradoxe, c'est que ces nominations ne résolveront aucun problème au niveau de l'institution de l'État.
Monsieur, merci Timothée Chaombo pour cette première analyse. Nous revenons à vous tout à l'heure. Nous ne sommes pas les seuls à s'exprimer sur ce sujet. Mohamed Boulet, tout à l'heure, vous pourrez compléter votre réaction. Mais avant cela, écoutons d'abord cette réaction qui nous vient de Isangi.
Peter Wenda, depuis Isangi, dans la province de la Tchopo. À mon avis, le président Kabila devrait plutôt promulguer une ordonnance loi portant des politisations de tous les services de sécurité en général et de l'armée congolaise en particulier, mais aussi de la justice congolaise, car il ignore que ces derniers sont inféodés par le pouvoir à place au lieu de continuer à diper la population sur des ordonnances stériles qui ne profitent qu'à ses intérêts. Ainsi, à qui profite cette nouvelle mise en place? Est-ce à la population congolaise ou au président Kabila? Pourquoi seulement cette mise en place intervient après la déclaration du CELC sur l'éventuelle candidature du président Kabila à la prochaine présidentielle et aussi avant le dépôt de candidature à l'élection présidentielle?
Alors, plusieurs questions. N'y a-t-il pas confiscation justement de l'armée au-delà des explications que vous avez données tout à l'heure? Autre question, et vous répondriez, j'espère, le plus bref possible à toutes ces interrogations, il y en a beaucoup. Certains de ces promus dont nous avons cité le nom tout à l'heure sont vos anciens collègues au sein de l'armée. Vous les connaissez comme des braves gens, mais est-ce que depuis un moment, ils n'ont pas changé casquette sans vous demander l'autorisation ni vous avertir et devenir un peu comme Timothée Chaombo disait tout à l'heure, des gens à la gâchette facile, impitoyable et au service d'un régime qui veut s'éterniser.
Oui, je voudrais préciser à l'intervenant de tout à l'heure d'Isangui qu'il ne s'agit pas ici des ordonnances-loi. Les ordonnances-loi, il faut certainement, pendant que le Parlement est en vacances et pour de questions urgentes qui nécessitent à ce qu'on puisse prendre des mesures urgentes et le gouvernement peut demander à ce qu'on puisse accorder au président de la République de prendre des ordonnances de loi. Ici, le président agit par ordonnance. Il a pris des ordonnances qui sont des mesures réglementaires. En ce qui concerne les différents commentaires qui sont faits ici, je les ai écoutés. Ces commentaires sont très pertinents. Parce que à l'armée, il y a une chose, donc il faut tenir compte de l'honneur et de la fidélité. C'est l'exemple de l'Académie militaire, dont je suis ici à la 4e promotion, et précise bien, notre devise, c'est l'honneur et la fidélité. Les interventions de tout à l'heure vont dans ce sens-là. Parce qu'à l'armée, la discipline, c'est une notion très rigoureuse. Et donc, il y a de la rigueur de ça. Donc, tout ce qui se commet lorsqu'un officier va en marge du règlement militaire, il peut à la fois aussi encourir des mesures administratives conformes au règlement militaire. Et lorsque ça va au-delà, c'est la justice. Et vous comprenez bien qu'au nom de la séparation du pouvoir, lorsque l'affaire est pendante à la justice, c'est personne qui peut intervenir. Donc là, je ne peux pas intervenir dans les dossiers tels qu'évoqués tout à l'heure.
Mais l'honneur militaire à laquelle vous faites allusion ne peut-il pas prendre en considération des éventuelles valeurs qui doivent être défendues pour des gens qui sont donc pour lesquels les affaires sont en justice?
Justement, c'est cela qu'il faut, parce que les nominations ne peuvent pas arriver comme ça. En amont, on prépare. Et donc, ce sont des propositions qui viennent, qui sont examinées certainement au niveau du haut commandement militaire, et surtout que ce sera présenté par une commission ad hoc qui est nommée et désignée pour examiner les cas des nouvelles promotions. Et donc, je n'entre pas là, c'est la cuisine interne donc, de l'armée, c'est ce qui devrait être fait. Et normalement, pendant la commission, les responsables des grandes unités doivent être là pour défendre devant cette commission et avoir les arguments nécessaires. Et les services aussi doivent aider le commandement pour dénoncer certains cas qui méritent d'être récalés lorsqu'il y a des preuves et des indices documentés sérieux qu'un tel officier, pour tel fait commis, n'a pas le mérite d'être promis à un grade supérieur ou à une fonction supérieure. C'est cela qui doit concourir pour aider le chef de l'État à prendre, bien que dans sa décision discrétionnaire, on doit tenir compte de cela pour savoir tel officier en les nommant, est-ce que cela ne peut-il pas susciter de problèmes?
Mais alors, tout à l'heure, dans les questions liées à la réforme, vous parliez de rajeunissement et d'émulation au sein de l'armée. Est-ce que vous pensez que quand on utilise toujours les mêmes pour les fonctions les plus élevées et que les hommes de troupes sont délaissés. Tout à l'heure, le professeur Chaombo parlait de la grogne au sein de l'armée et qui n'a pas pu permettre le défilé national. Est-ce que votre réforme est bien suivie? Est-ce qu'elle est vraiment en train d'être bien appliquée?
Monsieur, je dois être conséquent de moi-même. Si nous faisons l'histogramme de cet échantillon de 36 ordonnances, au sens de l'article 189 de notre Constitution, la représentativité équitable des provinces aux fonctions de commandement doit souffrir. Ça, je l'ai dit, même pour les autres. Et si on voit encore faire l'histogramme des différentes catégories de grades, officiers, généraux, supérieurs et tout ça, je crois qu'à un certain moment, pour certaines catégories, la tendance serait que la pyramide est renversée avec beaucoup d'officiers et très peu des hommes de rang, la troupe et tout ça, ce qui pose problème. Et là-dedans aussi, si on aurait mis en application ces statuts, nos effectifs seraient vraisemblablement et donc admis à la retraite à presque plus de 60%. C'est pourquoi maintenant on est en train de recruter. Mais le recrutement aussi souffre. Parce que ces jeunes qui voient que les anciens, leurs grands-parents sont encore là, ils n'ont pas pris honorablement les retraites et ils restent avec leur famille. Et c'est cela qui fait qu'il y a un désintéressement total pour que les jeunes gens s'engagent à servir la nation sous les drapeaux.
Merci pour cet éclairage. Clovis Kada, c'est votre tour. Mais avant, ce commentaire de Mahagi.
Olivier Trinien Ayolangi, depuis Mahagi, dans la province de l'Ituri. La série d'ordonnances signées par le chef de l'État, lui est garantie par la Constitution de la République. Les véritables questions tournent autour du soubassement de cette série d'ordonnances, de l'opportunité de cette ordonnance, et voire même l'impact de cette série d'ordonnances sur la situation sécuritaire dans le pays. Ceci dit, à notre avis, nous pensons que le soubassement de cette ordonnance serait de rendre apte le FARDC sur le terrain, mais du fait de vie, opportunité, nous pensons que cette ordonnance devait intervenir depuis très longtemps pour permettre à la force régulière d'être beaucoup plus forte et efficace devant l'ennemi. Du fait de vue de l'impact de cette ordonnance, nous pensons que cette ordonnance crée le mécontentement en fait de l'association La Voix de Savoie à la suite de la nomination de John Numbs au rang d'inspecteur général de FARDC.
Alors, Clovis Kada, pour compléter ce commentaire de Clovis, il y a aussi la structure CEPADO qui a appelé le nouveau chef d'état-major à tordre le cou à l'insécurité à l'Est et au Kassai.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Olivier de Mahagi. Et peut-être à la fin, je pourrais revenir sur l'intervention de Peter Disangi. Ici, à l'époque d'Isaïre, on a vu quand la guerre de l'Aftel a commencé. Si j'ai bonne mémoire, les chefs d'état-major général à l'époque, c'était Elouki. La guerre a commencé, lui, il était à l'hôtel Memling en train de regarder un combat de catch. Ce que nous aimerions, pour appuyer ce que Olivier de Mahagi a dit, et il a tout à fait raison, même nos amis de CEPADO, que le général Mbala fasse la différence. Le chef d'État lui a fait confiance. Ce sont des ordonnances qui existent, on n'en peut rien. Donc, on accepte comme tel, mais qu'il fasse la différence. Est-ce qu'il y a moyen de délocaliser un peu les chefs d'État-major général de Kinshasa et d'aller à l'Est? Donc, quand je dis l'Est, c'est la partie Est qui comprend et les Katanga, et le Maniema, et le Ituri, tout, y compris l'espace Kassai. Donc le travail est énorme sur le plan pour vraiment combattre l'insécurité qui est généralisée. Les groupes armés qui sont toujours là, toujours nuisibles, on change, on a autant d'opérations, on a connu autant d'opérations, mais rien ne change. Rien ne change si au moins cette fois-ci on peut rassurer la population en disant, nous, Kinshasa, c'est pas le Congo. Le vrai problème sécuritaire, c'est vrai qu'il y a l'insécurité partout, mais c'est avec beaucoup d'acuité au niveau de l'Est du pays. Nous allons installer notre chef d'état-major, quartier général là-bas, et nous allons travailler à partir de là. C'est déjà un signal qu'on donne à la population qui va se sentir un peu rassurée, parce qu'on a l'exemple du colonel Mamadou. Comment il a vaincu les M23? Parce que la population a été mise en confiance et la population avait largement contribué à aider les FRDC pour dénicher partout où se trouvaient les M23. Je voudrais revenir sur ce que Peter Issangui a dit. En fait, ce n'est pas que les chefs d'État doivent prendre d'autres lois pour rendre les services de sécurité apolitiques. C'est dans la Constitution. Et cela est repris même dans les différents... L'honorable a fait allusion ici à la loi organique portant organisation et fonctionnement des forces armées de la RDC, mêmement avec la loi portant statut du militaire des FRDC. L'armée est apolitique, les services de sécurité sont apolitiques. Et la loi portant statut du militaire des FRDC, c'est une loi... Nous, au niveau de la société civile, nous battons pour la mise en application de cette loi. Cette loi, elle est importante et elle va changer les conditions socio-professionnelles du militaire si elle est mise en application.
Merci Clovis Kada, un autre auditeur de Issangui, mais cette fois-ci, nous souhaitons confronter son commentaire à l'analyse du professeur Timothée Chaoumbo.
Je veux me revenir à la Kayaka depuis Issangui dans la province de la Tchopo. Signer les ordonnances fait partie de moi régalier reconnu au chef de l'État. Il ne pouvait que le faire. À mon humble avis, vu la tension politique dans le pays, ces séries d'ordonnances ne sont pas les bienvenues à la population congolaise, d'autant plus qu'elles ne répondent à aucune situation de crise actuelle, à aucune attente de la population. D'ailleurs, cela crée la terreur, la peur à cette population. En signant ces ordonnances pendant cette période, le président de la République traduit une image négative à l'équipe sortante qui ne serait pas à mesure d'assurer sa sécurité après cette période cruciale et prouve sa confiance à l'équipe entrante. Une question me revient en tête. Pourquoi seulement ces ordonnances pendant cette période cruciale et juste après l'adoption au Sénat de la loi portant statut des anciens présidents de la République?
Alors, vous avez tout à l'heure tenté une explication au pourquoi de ce moment-ci. Vous allez ajouter d'autres éclaircissements que vous avez. Mais j'ajoute aussi cette question. Pensez-vous que le président de la République s'en fout de tous les commentaires qu'on fait autour de ses collaborateurs présentés comme corrompus?
Oui. D'abord, je voudrais répondre à l'auditeur, à l'intervenant du Fendi, que je n'ai pas très, très bien compris, mais j'ai compris à un moment donné, il a dit que le chef de l'État, c'était dans ses pouvoirs régaliens de nommer, mais seulement il s'est questionné sur le pourquoi maintenant, s'il n'est pas en train de désavouer l'équipe sortante.
Tout à fait.
Je suis d'accord avec lui que le chef de l'État, et moi je ne l'ai pas contesté ici, bien qu'il souffre de l'illégitimité, etc., mais le chef de l'État, je ne peux pas contester son pouvoir constitutionnel de nommer et de défendre.
De prendre des ordonnances.
La Constitution le dit, il est commandant suprême. Seulement, le contexte, et je vais rebondir dans votre de tantôt, le contexte est tel que il le fait en afin. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des crises, les chefs de l'État ne font pas ces remaniements-là. Ces ordonnances-là ne sont pas prises pour résoudre un problème, c'est du Congo, au Kassai, etc. Non, c'est pour sa sécurité. C'est pour ça que j'avais planté mes décors pour dire que l'armée dans le pays d'Afrique, dans ce genre d'institutions quasiment despotiques, ce sont des l'armée qui sont au service d'un individu. C'est pour cette raison que j'ai dit tantôt que ce remaniement ne trouvera aucune solution à aucun problème des militaires, des FRDC et de la police. Je reviens au petit complément que vous avez ajouté tantôt pour dire pourquoi est-ce que c'est maintenant. Est-ce que le chef de l'État n'est pas en train de... Il s'en fout des commentaires des gens.
Lorsqu'on observe le président de la République, excusez-moi l'expression, je ne suis pas médecin, c'est comme quelqu'un qui souffre d'un comportement antisocial, c'est-à-dire schizophrénie, il n'est pas conscient du danger. Tout ce qui meurt au Congo ne l'intéresse pas, et tout ce que les gens racontent ne l'intéresse pas, il est imprévisible, mais sauf quand deux personnes meurent à Liège, il présente des condoléances au roi des Belges, et ça pose vraiment problème. Bon, alors, je reviens et je termine par là. Mohamed Boulé, qui est mon aîné, qui est mon père quasiment, a parlé tantôt de la retraite. Mon général, monsieur le député, vous pensez que nos militaires prennent une bonne retraite? La retraite n'est que pour vous, les officiers supérieurs. Je ne peux pas m'adresser à vous, mais nous sommes dans le débat. Les retraites que je connais, c'est les officiers supérieurs qui ont une situation dans les commerces. Le général Mbala a des bateaux qui vont à Kisangani, pareil pour Etumba, Olenga a des affaires, etc. La liste est longue. Donc quand il faut qu'un officier prenne retraite, parce qu'ayant participé à des dossiers les plus sensibles de l'État, il y a une retraite dorée. Qu'en est-il de 40 000, 50 000, 60 ou 100 000 militaires de rang, les caporaux? Comment ils prennent leur retraite? Comment ils meurent? Qu'est-ce qu'ils ont? Quel héritage ils donnent à leurs enfants? Cela, les débats, les grands débats. Et donc, lorsqu'on parle ici de déplacer l'état-major vers l'est du pays, le général Mbala ne va rien changer. Parce qu'au sein de l'FARDC, au sein du commandement supérieur, parce qu'on a parlé du rajeunissement, le rajeunissement est un produit de la volonté politique du commandant de changer son armée. Mais le chef de l'État, depuis le général Tshisekedi, général Ilunga, général Etumba, aujourd'hui général Mbala, vous avez vu quelque chose changer? Non, il n'y a pas une volonté. Il y a la volonté de détruire cette armée-là, qui était jadis craint sur toute la région en Afrique. Donc le général Mbala, même si on déplace l'état-major à l'est du pays, ça ne va rien changer, tout simplement parce qu'il y a un commandement parallèle qui, lorsque nos militaires sont au front, ils sont au-dessus de l'ennemi, il y a un téléphone, un coup de fil qui arrive pour dire « vous devez reculer » et au lendemain, ce sont les ennemis qui occupent les terrains des forces armées et qui les surprennent. Voilà la véritable question qu'il y a au sein de l'armée, c'est la haute trahison et qui commence dans les chefs du président de la République.
Mohamed Boulé, Timothée Chaoumbo paraît peut-être un peu sévère dans ses analyses, mais les faits qu'il soulève ne sont-ils pas des faits assez proches de la réalité? Et ça, c'est déjà votre mot de la fin. Que peut faire le nouveau commandement de l'armée pour résoudre le problème de l'insécurité à l'Est?
Les problèmes que soulève Timothée, ce sont des problèmes réels, parce que en ce qui concerne la retraite, si on aurait mis en application ces statuts que j'ai par devant moi, et croyez-moi, j'étais le rapporteur de la commission défense et sécurité et nous nous sommes battus et discutés et avec même tout le monde, la société civile, pour que ceci soit d'application. Mais jusqu'à nos jours, ce statut souffre d'application, surtout en ce qui concerne les hommes des troupes, qui beaucoup possèdent des cartes éligibles à la retraite. Mais on ne sait pas d'où viendrait le financement.
Alors, que peut faire
au nom de la souveraineté, de notre souveraineté?
En un mot, que peut faire le nouveau commandement pour régler le problème?
Mais je crois que le nouveau commandement, au moment où, jusqu'ici, depuis qu'on a promulgué la loi organique ici, les forces armées, la loi de programmation militaire souffre et n'est jamais présentée à l'Assemblée nationale parce que c'est une loi pluriannuelle. Ce n'est pas avec les budgets ordinaires qui souffrent encore de les réaliser en termes de ce qu'on présente qui pourra régler ces questions-là. Il faut certainement trouver d'autres moyens. Et la solution, c'est dans la loi pour que le gouvernement nous présente à l'Assemblée, au Parlement, les projets et donc les projets des lois de programmation.
Merci.
La police l'a fait jusqu'ici. Sans cela, en tout cas, les militaires de bas niveau, les troupes, nos troupes, les sous-officiers, tout ça, en souffrent parce que beaucoup sont éligibles. Moi qui vous parle, je suis de ceux-là qui attendent toujours les allocations de fin de carrière.
Merci Clovis Kada. En 10 secondes, quelle peut être la solution pour le nouveau commandement?
La solution, elle est très simple. Il faut délocaliser l'état-major général vers les zones de conflit et associer de manière significative les services d'éducation civique et patriotique et les services de communication et information des forces armées au niveau des secteurs opérationnels pour les changements de comportement des militaires.
Merci Timothée Chaoumbo. En 10 secondes, pensez-vous que les relations entre la RDC et les Occidentaux vont prendre un coup?
ça va continuer à avoir un coût, et pour trouver solution à ce problème, le peuple congolais, l'armée, la population militaire, c'est-à-dire les hommes de troupes, et nous tous, hein, experts ou qui que ce soit, journalistes, nous devons travailler pour qu'il y ait véritablement changement du régime.
Merci. Merci d'avoir suivi Dialogue entre Congolais pour ce soir. Au revoir et à demain.